déteste l'Union européenne. Ça, il l'a dit, parce qu'elle a été faite, selon lui, pour entuber les États-Unis, et je suis poli en utilisant le verbe entuber, ce qui est complètement une contradiction historique. Il déteste aussi l'évolution des sociétés européennes, et ça, il l'a dit et redit, parce que, à ses yeux, elles abandonnent les valeurs occidentales dont il se prévaut, et dont l'Amérique MAGA se prévaut. Ça, c'est l'autre chose. Et puis, il y a derrière un procès fait en faiblesse. Tout simplement, les pays européens, selon Trump, sont des pays faibles, et dans l'univers selon Trump, si vous êtes faible, vous devez obéir, on profite de vous. Donc, si vous êtes faible, vous ne méritez absolument pas de respect, et vous méritez seulement une seule chose, c'est de payer les factures. Donc, c'est une détestation à la fois culturelle par rapport à l'orientation récente ou de ces dernières décennies des Européens, et ça, on le retrouve dans l'électorat MAGA, et lorsque je les ai rencontrés, ils le disaient tous, et on nous déteste aussi parce que, de toute manière, il s'agit de nous humilier pour être certain qu'on paiera toutes les additions qu'il nous enverra.
Mmh. On est faible, Nicole Niesoto, c'est ce que nous explique là Richard Wehrli. Si on est faible, pourquoi est-ce qu'on l'embête autant alors? Parce qu'en général, les faibles, on ne s'en préoccupe pas.
Oui, mais il faut comprendre que Donald Trump, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et c'est pour ça que l'Europe, c'est pour lui un terrain qu'il croit facile, mais peut-être qu'il a atteint le point de son point d'échec avec l'affaire du Groenland, on y reviendra. Mais en tout cas, il a une vision patrimoniale de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire un peu comme Staline disait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est à moi, ce qui est à vous est négociable. C'est-à-dire l'Alliance Atlantique, c'est pour lui une espèce d'extension de l'Amérique, et donc il ne comprend pas que les Européens ne lui permettent pas de faire ce qu'il veut sur cet hémisphère nord dans lequel il a complètement agrandi la doctrine Monroe. Et je crois qu'il a trois attitudes vis-à-vis de l'Europe. D'abord, c'est la revanche. Richard Wehrli l'a dit, mais il considère que les Européens ont profité de l'Amérique pendant 80 ans quand même, c'est-à-dire n'ont pas dépensé pour leur défense parce que l'Amérique les défendait. Et d'une certaine façon, il a raison. C'est vrai que notre extraordinaire succès économique et commercial a été dû au fait qu'on économisait
sur... On considérait que c'était un acquis, c'est
voilà.
Une réalité.
Ouais. Donc ça, mais ça, il veut nous faire payer le parasitisme des 80 dernières années. Deuxièmement, donc, il y a la méfiance, pas seulement la revanche, mais il y a la méfiance, et là il a une bonne intuition. Il a compris que le cadre de l'Union européenne, c'était le seul cadre qui pourrait peut-être permettre un jour l'émergence d'une puissance de l'Europe. Et c'est pour ça qu'il veut casser, non pas les nations européennes individuellement,
l'outil,
mais le cadre, ouais. Le cadre européen, parce que individuellement les 27 sont très faibles, même la France et le Luxembourg, qui sont les deux grands pays, c'est une blague de Jean-Louis Bourlange qui disait, il n'y a que deux grands pays en Europe, il y a le Grand-Duché du Luxembourg et la Grande-Bretagne, donc je fais une parenthèse. Mais même un pays comme la France, ça n'est jamais que 4% du PIB mondial et 1% de la population mondiale, donc c'est rien. En revanche, il a compris que virtuellement le cadre de l'Union européenne, les institutions, l'intégration, la communauté européenne était une menace pour sa puissance. Donc il y a aussi cette méfiance à l'égard de l'Union. Donc la revanche, la méfiance et puis l'arrogance, c'est-à-dire de considérer...
Je suis le plus fort, je fais ce que je veux.
Enfin, vous êtes mes alliés, donc vous êtes à moi. Il y a une vision mafieuse de l'Alliance Atlantique et je crois qu'il doit être très surpris. Aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, très surpris de la violence des réactions européennes sur l'affaire Groenland.
Vous parlez de mafia, ça me fait penser à cette citation d'un journaliste américain qui apparaît dans votre livre, Richard Wehrli, et que j'aimerais vous soumettre. La véritable raison pour laquelle Trump déteste l'Europe, eh bien elle représente tout ce qu'il méprise. La coopération, la responsabilité et une résistance collective à l'autoritarisme. L'Europe défend l'état de droit, l'idée que les nations doivent rendre des comptes pour leurs actions. Or, pour un homme dont le modèle de gouvernance idéal est un mélange entre un parrain de la mafia et un roi médiéval, cela représente une menace directe pour sa vision du monde. Une réaction à cela, Peter Lagroux, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Oui, tout à fait, mais je pense que là... détestation de Trump et de toute son équipe et de ceux qui sont derrière lui tient peut-être moins au mépris que à la crainte que, en effet, aujourd'hui, l'Union européenne est la seule puissance à pouvoir tenir tête. Kissinger avait dit, si je veux appeler l'Europe, qui j'appelle, Trump aime bien les négociations directes, le deal. Ben, pour l'Union européenne, c'est beaucoup plus difficile. Sur qui mets-je la pression? Voilà, on inflige des taxes d'importation sur certains pays de l'Union, pas sur d'autres. Ça ne peut pas marcher parce que l'Union européenne ne fonctionne pas ainsi. Mais quand on voit ceux qui sont derrière Trump, ces oligarques qui ont depuis son investiture augmenté leur fortune de 50%, les 10 plus grandes fortunes des États-Unis qui sont tous dans la tech ont augmenté leur fortune de 50%, sauf Bill Gates qui a perdu 16%. Mais donc, les Musk, les Zuckerberg, les Bezos, les Murdoch soutiennent Trump. On est dans une pleine révolution informationnelle, technologique, et tout ce qui leur tient à cœur, c'est la dérégulation. Et donc, quand on a vu quelqu'un comme Zuckerberg aussitôt rallier le camp Trump, c'est parce qu'on voit dans Trump le champion de la dérégulation. Et donc, pour des hommes qui tiennent leur fortune d'un monopole commercial et d'une liberté totale de manipuler ces outils, la plus grande menace, c'est l'Union européenne. Et donc là, que ce soit le règlement général sur la protection des données ou le règlement sur les services digitaux, c'est les armes les plus redoutables pour freiner le pouvoir monopolistique de ces oligarques. Mmh. Donc pour cela, l'Union européenne est forte et est un vrai ennemi pour un projet de dérégulation totale.
Ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, quand on commente la politique et la stratégie américaine, on utilise quasi les mêmes mots qu'on utilise pour la Russie, Camille Grand. On a beaucoup parlé, y compris avec vous dans ce studio déjà, de guerre hybride de la Russie à l'égard de l'Union européenne, déstabilisation. On insiste sur la polarisation au sein de l'Union. On soutient les partis d'extrême droite. On parle aussi d'effacement civilisationnel, d'une Europe qui a abandonné ses valeurs. Donc, en fait, on retrouve dans le discours tenu par Donald Trump et dans la stratégie énormément de choses qu'on a dénoncées aussi du côté de la Russie. C'est kiff-kiff aujourd'hui, alors que c'est notre allié?
Je crois que c'est la différence profonde entre Trump 1 et Trump 2. Trump 1, on avait un président assez inexpérimenté sur la scène internationale qui était entouré de gens qui le contradisait ou qui essayait de modérer ses instincts. Là, on a un Trump qui connaît mieux l'appareil d'État et qui s'est entouré de gens qui sont ou idéologiquement presque plus radicaux que lui ou qui suivent absolument à la ligne ses orientations. Oui. Parce que
on se souvient dans le premier mandat le nombre de défections,
de gens, de critiques,
ici,
etc.
Tout le monde reste à bord.
Là, les gens restent à bord, non seulement restent à bord, mais soutiennent, et même ceux qui viennent, on va dire, de la partie la plus traditionnelle du Parti républicain, on peut penser à Marco Rubio, par exemple, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, ils sont totalement alignés sur le président, en tout cas publiquement, et ils ne le contredisent jamais, et ils n'essayent pas de modérer ses instincts ou ses directions. Alors la deuxième chose vis-à-vis des Européens, c'est que du coup ça amène à quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on avait expérimenté pendant le premier mandat, qui était ce côté un peu transactionnel. Il faut payer pour que l'OTAN demeure. Il faut payer un peu de droits de douane, mais on reste dans une logique de commerce international, etc. Il ne faut pas trop réguler, mais il n'y a pas de sanctions si ça n'arrive pas. Là, on est rentré dans manifestement autre chose depuis un an. On a un président des États-Unis qui est en conflit, les uns et les autres l'ont rappelé, idéologique, commercial, et avec une divergence stratégique avec les Européens qui s'affirme toutes les semaines un peu plus. On a eu pendant depuis le fameux sommet avec Poutine en Alaska l'impression très claire que sur le dossier ukrainien on avait une divergence qui devenait de plus en plus marquée. Et les Européens ont passé les 6 derniers mois à essayer de maintenir, d'accrocher les États-Unis un petit peu à tout prix. Et on a beaucoup expliqué que les compromis qui ont été acceptés, que les concessions qui ont été faites étaient liées à cette volonté géopolitique d'ancrer les États-Unis dans l'Alliance Atlantique, dans le soutien à l'Ukraine, et aussi de répondre à l'inquiétude des Européens de comment faire sans les États-Unis. On voit aujourd'hui que tout ça, finalement, amène à une sorte de surenchère, notamment avec le dossier du Groenland, où on voit un président des États-Unis qui pousse davantage et ne comprend pas.
Mais de là à utiliser
que les Européens résistent même un peu.
De là à utiliser l'expression guerre hybride, vous iriez jusque-là aujourd'hui ?
Il y a des formes de guerre hybride assumées. On le voit dans la visite du vice-président des États-Unis en Allemagne, il y a un peu moins d'un an, où il fait ce fameux discours devant la conférence de Munich. Moi, j'étais dans la pièce. Il a été hué par un public allemand qui est plutôt le public atlantiste classique, qui était en état de choc de voir un président des États-Unis venir faire la leçon sur la démocratie à l'Allemagne et aller voir Madame Weidel, présidente du parti d'extrême droite, plutôt que Merz, qui était en train de devenir le chancelier de l'Allemagne à ce moment-là. Donc on a vraiment des choses très choquantes qui se sont passées. Donc ça, c'est dans la sphère, je dirais, de l'interférence idéologique. On l'a vu pour les élections roumaines, on l'a vu dans beaucoup, beaucoup de moments. Et s'ajoute à ça, effectivement, notamment par les grandes plateformes de réseaux sociaux, la mise en scène d'un débat idéologique qui s'apparente clairement à une forme de guerre hybride. Alors, ce n'est pas tout à fait les sabotages que peuvent faire les services russes en Europe, mais on est bien dans le champ de la guerre hybride et de la guerre des perceptions.
Vous évoquez la conférence de Munich. C'est vrai que dès le mois de février, tout était là, dans le discours notamment de J.D. Vance, qui a surpris tout le monde. Et pour vous, vous le racontez dans votre livre, Nicole Niesoto, il y a vraiment quelque chose qui se passe là et que vous retenez, qui vous a marqué, c'est le discours du président de cette conférence de Munich, qui s'appelle Christoph Hösgen, un diplomate qui présidait. Donc, on va le réécouter avant de commenter.
It is clear that our rules-based international order is under pressure. It is my strong belief that this more multipolar world needs to be based on a single set of norms and principles, on the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights. This order is easy to disrupt, it's easy to destroy, but it's much harder to rebuild. So let us stick to these values, let us not reinvent them, but focus on strengthening their consistent application. Let me conclude, and this becomes difficult.
Ce moment d'émotion-là, dans une conférence comme celle de Munich, c'est vrai que ça a de quoi frapper les esprits, Nicole Niesoto.
Oui, alors il y a eu plusieurs interprétations qui ont été données ensuite à ces sanglots de Christoph Hösgen, qui a été un très grand diplomate allemand auprès de Madame Merkel, un très grand diplomate européen. Il était pendant au moins 4-5 ans un des piliers de la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne. Mais une des explications, celle que je retiens, c'est qu'au moment où il prononce son discours à Munich, Christoph Hösgen se rend compte que son monde, le monde qu'on a connu, le monde d'une alliance entre l'Europe et les États-Unis au nom des libertés, au nom de la démocratie, que cette alliance est morte. Et ce qu'il pleure là, c'est la fin d'un monde et le début de quelque chose qui s'annonce pas du tout sympathique. Et au même moment, vous avez les saluts nazis. Là aussi, d'autres explications ont été données, des saluts nazis de Elon Musk. Notamment, et de Steve Bannon, un des anciens conseillers de Donald Trump. Et donc, c'est la coexistence entre ces deux choses, le salut nazi des Américains et les pleurs de l'Allemagne sur la fin de l'alliance euro-américaine, qui, à mon avis, marque vraiment un tournant historique, structurel, très important dans la relation transatlantique. Alors, évidemment, entre parenthèses, c'est plus qu'une guerre hybride qu'ils nous mènent. C'est même pire que la guerre que nous mènent les Russes et les Chinois, parce que les Américains le font ouvertement. Les Chinois et les Russes se cachent. C'est clandestinement qu'ils essayent d'influencer nos élections, etc. Alors que les Américains, c'est ouvertement. Je ferme la parenthèse. Mais ce que je crois vraiment, c'est que les idéologues qui sont autour de Trump, parce que le personnage lui-même, je ne suis pas sûr qu'il ait une grande vision ni du monde ni de l'Europe, mais il y a très concrètement, de la part des idéologues qui sont autour de lui, la conviction, premièrement, que le libéralisme économique ne correspond plus aux conditions de la puissance américaine, donc il faut l'annuler, que la démocratie représentative ne correspond plus aux besoins de puissance, et en particulier, comme vous l'avez très bien dit, le besoin d'une innovation sans contrainte, d'une, créativité technologique sans contrainte, et donc il faut détruire la démocratie et la remplacer par des régimes autoritaires, et troisièmement que le droit international est une contrainte sur la liberté de l'Amérique, et donc il vaut mieux le rapport de force plutôt que l'adhésion au droit, puisque l'Amérique étant la plus forte du monde. Et donc on a véritablement une restructuration du monde très cohérente que ces idéologues veulent mettre en place en remplaçant le triptyque qui a fondé nos démocraties, c'est-à-dire libéralisme, démocratie, droit, par un autre triptyque abominable qui est la recette de toutes les guerres depuis que les guerres existent, qui est protectionnisme, autoritarisme, rapport de force. Et c'est en ça que l'Europe a un vrai devoir de résistance, non seulement de défendre ses propres intérêts, en particulier la souveraineté de ses États membres, mais un vrai devoir de résistance par rapport à cette contre-révolution américaine.
Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est si c'est le fait de Trump et de son entourage direct, de ses conseillers, hein, qui sont importants, vous venez de le rappeler, ou si c'est vraiment l'Amérique qui a basculé dans autre chose. Alors on sait que Donald Trump, il a été largement élu, Richard Wehrli, mais est-ce que l'Amérique aujourd'hui soutient ces options, cette stratégie américaine extrêmement brutale, extrémiste, fasciste, disent certains ? Est-ce que c'est l'essentiel des États-Unis aujourd'hui qui est derrière ça ?
Alors, il n'a pas été si largement élu. Par contre, la grande différence avec le premier mandat, c'est qu'il a gagné à la fois le vote populaire et le vote des grands électeurs.
Ce qui est quand même pas mal.
Et qu'en plus, il a gagné les 7 fameux États clés, ceux dont on pensait qu'il basculerait et qu'il pourrait faire la différence en faveur de Kamala Harris. C'est important de le dire quand même.
Victoire
incontestable. En gros, c'est pas une victoire électorale massive, mais c'est une victoire électorale tout à fait nette, et c'est évidemment un triomphe politique. L'Amérique et cette Amérique-là, je crois que moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, et je le constate dès le mois d'août-septembre 2024, c'est-à-dire à ce moment-là, Trump est en campagne, mais la tentative d'attentat de Butler en Pennsylvanie a eu lieu. Et ça, elle est très importante dans l'imaginaire MAGA, et il en a profité politiquement énormément, notamment cette fameuse photo, vous vous souvenez, avec ce slogan « Fight, fight, fight ». C'est que cette Amérique, et ça, c'est la différence entre le premier et le deuxième mandat, pendant, en gros, la présidence Biden, qui a commencé sur la pandémie, on n'a pas vu, enfin, je n'avais pas vu, mais il me semble que beaucoup n'avaient pas vu, que les idées de Trump infusaient encore plus dans son électorat. Et que l'électorat Trump s'est considérablement durci. Il y avait eu entre-temps l'assaut sur le Pentagone, sur le Congrès du 6 janvier 2021, vous vous souvenez? Et donc, il y a eu une sorte de terrible infusion dans cet électorat de détermination à revenir au pouvoir. Mmh. Et cet électorat de Trump, qui était déjà radical, c'est encore plus radicalisé.
Mais ils sont préoccupés par l'Europe, tous ces...
Écoutez, moi j'ai été très surpris. Vous savez, il se trouve, vous l'avez vu dans le livre, que j'avais choisi de faire toute une partie de mon reportage en camping-car. L'avantage quand vous êtes en camping-car aux États-Unis, c'est que vous vous arrêtez soit dans les campings, soit dans les parkings de grands supermarchés. Vous avez une forte chance de rencontrer des électeurs de Donald Trump. Eh bien oui, ils se sont mis à détester l'Europe. Et parce qu'on leur a dit. Et pourquoi ? Et essentiellement autour de deux sujets. D'abord, la force et la faiblesse. L'Europe est faible dans un monde qui est un monde de forts, auquel ils estiment appartenir et ils estiment être les plus forts. Et cette idée, elle s'est répandue, et encore une fois, elle était beaucoup plus marquante pendant cette campagne 2024 que pendant la campagne de 2019. Et l'autre chose, moi, qui m'a frappé, c'est le risque ou la conséquence de la guerre contre le wokisme aux États-Unis. C'est-à-dire, au fond, cette idée que la démocratie est confisqué par les minorités. Ça, c'est l'idée centrale de Trump et d'un certain nombre d'idéologues autour de lui. C'est-à-dire que la démocratie telle qu'on la conçoit, protégée par des institutions, par un parlement, par un pouvoir judiciaire indépendant, en fait, elle est devenue une fausse démocratie parce qu'elle est confisquée par des minorités qui nient la libre expression de la majorité. Et donc, tout le discours de Trump et des géants de la tech, c'est de dire, nous, on va vous rendre la libre expression. D'ailleurs, c'est ce que disait, vous vous souvenez, c'est exactement ce que disait J.D. Vance à Munich. Eh bien, cette idée, elle est devenue encore plus forte. Et la détestation de la démocratie, alimentée par l'assaut sur le Capitole du 6 janvier 2021 et par la condamnation de tous ceux qui avaient mené cet assaut, elle est devenue un mot d'ordre. Et donc, l'Europe, elle est clairement dans le viseur. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que les Européens, ne l'oublions, à mon avis, jamais dans nos discussions, il y a, si vous regardez les résultats dans les urnes, si vous regardez les sondages, il y a 40% des Européens qui pensent comme Trump. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que quand Nicole dit « l'Europe doit se défendre », mais il y a à peu près, grosso modo, dans tous nos pays, 30 à 40% des Européens qui sont prêts à signer en bas des déclarations de Donald Trump sur le thème « nous sommes faibles, nous avons abandonné notre civilisation, nous sommes décadents ».
Fustige aussi la politique d'immigration européenne. Ces critiques se retrouvent compilées dans un document de la Maison-Blanche publié en novembre 2025, la note de sécurité nationale, celle qui détermine la philosophie politique des USA. Le ton à l'égard de l'Europe est cinglant.
Le de liberté d'expression, l'asphyxie. Sans oublier l'immigration. À long terme, il est plus que plausible qu'en quelques décennies, certains membres de l'OTAN seront à majorité non européenne.
Le document.
But we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree.
Le vice-président fustige aussi la politique d'immigration européenne. Ces critiques se retrouvent compilées dans un document de la Maison-Blanche publié en novembre 2025, la note de sécurité nationale, celle qui détermine la philosophie politique des USA. Le ton à l'égard de l'Europe est cinglant.
Le déclin par la perspective réelle et abrupte d'un